En fait, juste pour remettre en contexte, en fait, c'est vraiment que depuis le début du capitalisme, on a mesuré la performance d'une entreprise que par sa performance financière. Hein? On a regardé le rendement, le profit, puis souvent, de plus en plus, on recherche des grands rendements. On est très, très exigeant pour les investisseurs, pour les actionnaires, puis on recherche ce profit-là à tout prix. Puis ce modèle-là, dans le fond, a fini par épuiser nos ressources, puis épuise finalement notre humanité. Puis moi, je pense que ce modèle-là va finir par s'épuiser.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 111e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre à chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Si je vous posais la question « Qu'est-ce qu'un modèle d'affaires progressiste? » Quelle réponse me donneriez-vous? Depuis le début du capitalisme, on s'est fait dire que l'objectif d'une entreprise était de générer un maximum de profit pour les actionnaires de celle-ci. En 2021, certains dirigeants et dirigeantes remettent en doute cette prémisse de base en disant que ce modèle risque d'épuiser nos ressources dans un avenir très rapproché. Parmi ces dirigeantes, on retrouve Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana, un leader canadien en collation bio. Pendant un entretien d'un peu plus de 40 minutes, Marie-Josée nous explique comment l'entrepreneuriat se doit d'évoluer dans les prochaines années afin de s'assurer d'une pérennité pour notre planète, nos enfants et nos générations futures. Une discussion plus qu'intéressante qui, à mon avis, va pousser nos auditeurs à bien analyser la mission de leur entreprise. Sans plus attendre, ma discussion avec Marie-Josée Richer. Marie-Josée Richer, vous êtes la présidente et cofondatrice de l'entreprise Prana. Fondée en 2005, votre organisation s'est positionnée comme le leader canadien en collation bio et possède depuis 2015 la certification B Corp remise aux entreprises qui se soumettent à des standards très élevés en ce qui concerne l'environnement, les employés, les causes sociales et également la poursuite de profitabilité. Important également de mentionner que vous apparaissez à l'émission Dans l'œil du dragon depuis 2019. Marie-Josée Richer, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Et Marie-Josée, tu l'as dit en 2017 dans un entretien avec le Journal des affaires, les ressources biologiques vont nous permettre de nous nourrir pour encore 300 ans au lieu de simplement extirper les ressources planétaires. J'imagine que cette prémisse t'a poussé à fonder Prana à l'époque. Peux-tu nous ramener au moment de la fondation et également nous expliquer qu'est-ce que Prana?
Ben en fait, je veux dire, tout ça part d'un désir de faire les choses autrement. En fait, c'est suite à un voyage en Asie de 5 ans où est-ce que j'ai habité là, principalement en Inde, où j'ai eu aussi un restaurant à Goa sur une plage en Inde, où je suis revenue au Québec avec mon nouveau copain, Alan Farber. C'est lui le CEO, by the way. C'est ça, bref, on s'aide là-dedans. Et c'est avec ce désir-là, dans le fond, les deux en revenant au Québec, d'avoir un impact positif, de laisser les choses mieux qu'on les a trouvées, qu'on a avancé dans l'acte entrepreneur. On ne s'était pas dit entrepreneur à ce moment-là, mais nous, on était vraiment dans un désir de contribution à la société par nos activités quotidiennes. Puis pour nous, ça passait par le monde des affaires, puis ça passait par la nourriture, en fait. Donc, Prana, depuis 2005, ce qu'on fait, c'est qu'on importe des ingrédients, des produits biologiques, vegan, sans gluten, un peu partout dans le monde, et on les transforme à Montréal pour en faire des collations santé bio qu'on vend dans les épiceries là, à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, puis dans quelques pays dans le monde.
Puis, je pense que l'entreprise a sensiblement grandi à travers les années. Donc, vous avez énormément de points de vente, des dizaines et des dizaines d'employés qui travaillent avec vous. Donc, clairement, l'entreprise a pris une très belle croissance autour de ça.
Ben, on se situe juste pour clarifier, on se situe autour d'un peu plus d'une centaine d'employés. Puis, on est au moins dans 6 000. Okay. Ouais, puis on est à peu près dans 6 500 points de vente à travers le monde. Ouais. Si c'est une mesure.
toujours une métrique intéressante à considérer pour situer une croissance d'organisation. Puis, Marie-Josée, tu disais également dans un entretien qu'une des raisons pourquoi Prana avait fonctionné était reliée au moment de sa fondation, que tu disais être à l'avant-garde. Puis souvent, des fois, on peut être à l'avant-garde d'un paquet de choses et ultimement, ça peut nous amener à un certain succès. Mais avec un petit peu de recul, parce que là, ça fait plus de 15 ans maintenant que l'entreprise a été fondée, qu'est-ce qui, à l'époque, en 2005, tu sentais que tu étais à l'avant-garde spécifiquement? Est-ce que c'était par rapport à comment que les gens allaient consommer les produits? Comment que les gens peut-être allaient percevoir les entreprises qui étaient bio dans le futur?
Bien, je pense qu'à ce moment-là, on s'est jamais dit qu'on était visionnaire ou à l'avant-garde. Mais c'est sûr que, bon, d'avoir vécu de l'autre côté de la planète pendant un certain temps, mon copain et moi, on a vu les enjeux sociaux, environnementaux. On a vu, je pense qu'on a eu cette clarté d'esprit qu'on s'est dit, on ne pourra pas continuer comme ça en tant qu'humanité sur notre planète. C'est certain aussi que c'est parti un peu d'une indignation de ce que les entreprises et de ce que les gouvernements faisaient de simplement extirper les ressources. On s'est dit, est-ce que nous, on peut faire notre part. Puis de là, je pense qu'on a un peu anticipé les besoins des consommateurs. On s'est mis, nous, dans notre peau, puis on s'est dit, ben nous-mêmes, on veut consommer mieux, on veut consommer local, on veut consommer biologique, on voit comment l'alimentation a un impact énorme sur la planète, sur ses ressources, puis même aussi sur les agriculteurs, hein, on va pas se le cacher, là, la santé des agriculteurs, on l'a vu. Donc, on s'est dit, nous, dans le fond, c'est ce qu'on voudrait comme consommateur, puis on est certain qu'on n'est pas les seuls. Fait qu'on a fait un peu des produits à notre image. Puis de là, je veux dire, des années plus tard, c'est facile après de dire, bon, on a été visionnaire, mais disons que le marché n'était pas ce qu'il est en ce moment. Il n'y avait pas de section biologique, là. Il a fallu vraiment vendre cette vision-là aux acheteurs. Et de là, on a construit avec les acheteurs, avec les détaillants, les sections biologiques et le consommateur. Quand nous, on était là, bien, le consommateur a été prêt. Donc, ça a été comme une danse, mais je pense qu'on est arrivé vraiment juste au bon moment parce que là, je regarde les entreprises aujourd'hui, c'est pas facile de mettre un produit sur une tablette, là. C'est déjà hyper saturé. Puis il faut être bon dans tout dès le départ. Tu sais, dans le temps, on avait pas notre temps à passer sur les médias sociaux. Tu sais, on pouvait vraiment être, je dirais, plus low-tech, disons. Puis c'est ça. On a fait vraiment notre école sur le terrain. Nos 3-4 premières années, là, ça a été notre baccalauréat vraiment fait sur le terrain.
Vous avez pris la vague avant tout le monde. Je pense que c'est clairement ce qui vous a aidé à vous positionner aujourd'hui. Puis tu disais le marché. Il faut s'adapter au marché. Il faut regarder où est-ce que le marché va. Et clairement, indubitablement, en ce moment, on est capable de le voir, là, des modèles d'affaires purement orientés sur de la profitabilité à tout prix. Ça n'a pas l'air d'être autant fonctionnel que ce l'était à l'époque et j'ai l'impression que ça va l'être encore moins dans le futur. Et vous utilisez souvent le terme d'un modèle d'affaires progressiste et j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu là-dessus aujourd'hui. Comment vous voyez-vous, Prana, en 2021, qu'est-ce qu'un modèle d'affaires que vous êtes fier de présenter aux gens qui est pas uniquement axé sur la profitabilité? Parce que on va en parler là dans quelques minutes de votre certification B Corp. Ultimement, les deux vont très bien ensemble, mais je serais curieux de t'entendre sur qu'est-ce que tu définis comme une définition d'un modèle d'affaires progressiste?
En fait, juste pour remettre en contexte, en fait, c'est vraiment que depuis le début du capitalisme, on a mesuré la performance d'une entreprise que par sa performance financière. Hein? On a regardé le rendement, le profit, puis souvent, de plus en plus, on recherche des grands rendements. On est très, très exigeant pour les investisseurs, pour les actionnaires, puis on recherche ce profit-là à tout prix. Puis ce modèle-là, dans le fond, a fini par épuiser nos ressources, puis épuise finalement notre humanité. Puis moi, je pense que ce modèle-là va finir par s'épuiser. On parlait de pérennité dans le temps. Je pense que si les entreprises s'inscrivent pas dans une stratégie de développement durable, je ne pense pas que d'ici 20-30 ans, ils vont pouvoir survivre. Parce que, je veux dire, on n'aura pas de ressources à vendre, là. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau vendre des affaires, mais si tu n'as pas d'eau claire à boire, puis d'air pur à respirer, je veux dire, ça, c'est vraiment la base de l'humain, là. Donc, du coup, il y a des gens qui ont repensé à redéfinir le succès en affaires. Est-ce que c'est revenu moins dépenses égale profit? Est-ce que profit égale succès d'une entreprise? Puis nous, je veux dire, bien honnêtement, quand on a parti Prana, on avait ces valeurs humanistes-là, mais on n'était pas dans un modèle, on se disait pas dans un modèle d'affaires quelconque. Nous, on l'a juste fait par gros bon sens, finalement. C'est ce qu'on savait, par cohérence avec nos valeurs. Donc, du coup, maintenant, au lieu de regarder juste le profit devient un outil et non une fin en soi, un outil pour réinvestir dans le social et l'environnemental. Réinvestir dans son implication sociale puis réduire son impact environnemental. Puis le paradigme, là, il est vraiment, vraiment en train de changer. De plus en plus, on voit que la stratégie de développement durable s'intègre au modèle économique. C'est plus deux choses qui se passent en silo. Puis je veux dire, avant, là, tu sais, on vivait ça vraiment dans les compagnies. Tu sais, on avait une stratégie là, un petit peu plus en silo, faite sur le côté, puis pour un peu se donner bonne conscience. Mais là, de plus en plus, là, la responsabilité sociétale, ça fait partie de la stratégie d'affaires. Tu sais, c'est vraiment... Puis la stratégie d'affaires, c'est être au service d'un monde meilleur. Donc, l'entreprise devient acteur de changement avec ses engagements socio-environnementaux. Puis de là, on voit toute une dynamique d'innovation. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis la preuve, là, aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises de ce monde embarquent là-dedans. Ils n'ont plus le choix. Le consommateur, il est là. Je veux dire, les ressources s'épuisent. On est vraiment là, je pense, dans un shift. Ici, là, on assiste vraiment à quelque chose qui va changer. Puis je peux en nommer, là, General Electric, Levi's, Philips. Il y en a plein. Nike même, tu sais, des compagnies qui ont de grande envergure, des multinationales, tu sais, Toyota même. Ils se donnent vraiment des très, très grands engagements. Puis là, il va falloir qu'ils montrent leurs preuves dans les prochaines années. Puis je pense qu'on est là-dedans. Puis si l'entreprise ne s'inscrit pas là-dedans, je pense que, en tout cas, je ne veux pas souhaiter de mal à personne, mais je pense qu'on est voué à mourir si on ne s'intègre pas si on n'a pas au moins une stratégie de développement durable qui fait partie de notre plan stratégique.
Mais la vision du consommateur va changer parce que pour le client en soi, pour le consommateur, ça va devenir excessivement important de comprendre ces valeurs-là de l'entreprise à terme. Et ce l'est déjà et j'ai l'impression que ça va l'être encore plus. Je ramène ce que tu as dit, Marie-Josée, avec l'audience un peu de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des entreprises, des PME, des entreprises de 10, 20, 30, 40, 50 employés. Es-tu capable de nous donner un petit peu, peut-être des exemples de ce que ces entreprises-là qui... au départ, ont une vision de profitabilité comme n'importe quelle organisation, mais qui ont peut-être pas eu le réflexe de se dire quel changement je peux faire dans mon organisation pour avoir peut-être un impact environnemental, sociétal, comme Prana est capable de le faire si bien. Es-tu capable de donner peut-être certains trucs, certains astuces, certains exemples que ces entreprises-là pourraient mettre en place?
Bien, je pense qu'au départ, ça prend un exercice de se demander quelle est sa raison d'être.
Okay.
Est-ce que notre raison d'être est dans une perspective de s'enrichir en tant qu'actionnaire, d'agir plus à titre personnel, ou on est dans une raison d'être qui veut vraiment mettre l'entreprise comme un acteur de progrès finalement? Tu sais, qu'on est vraiment comme, est-ce qu'on veut maximiser la contribution à la société ou on veut maximiser notre gain? Donc, ça, je pense, c'est une première question à se poser. Puis de là, de la raison d'être doit découler des engagements socio-environnementaux. Donc, ça peut être des affaires pas si compliquées, là. Ça peut être réduire la quantité de papier qu'on utilise. Ça peut être l'engagement des employés. Ça peut être la création d'emplois. Tu sais, de se donner des objectifs, de regarder quel est mon environnement d'affaires, qui je touche avec mes activités d'affaires, quel est mon impact environnemental, et ensuite, quels engagements, quels objectifs je peux me donner. Et de là, du coup, qu'on a les engagements, là, il faut évidemment... Je veux dire, il faut que les bobines suivent les bottines suivent les babines.
C'est exact. Les bobines.
Puis, il faut, dans le fond, que j'offre ces preuves-là. Donc, il faut que je mette un plan d'action en place pour arriver à mes engagements. Parce que sinon, on va perdre la confiance des employés, des parties prenantes, des consommateurs, tout ça. Mais je pense que ça part vraiment d'une réflexion. Quelle est ma raison d'être? Quelle est ma mission? À quoi sert mon entreprise? Et de là, comment je m'engage dans ma communauté? Communauté, je parle, tu sais, employés, fournisseurs, consommateurs. Est-ce que mon produit amène la santé des gens? Tu sais, moi, je suis dans l'alimentaire. Est-ce que mon produit est bénéfique pour les gens dans tous les sens du terme, là, de mon bénéfice? Est-ce que je crée de la valeur pour mon consommateur? Et est-ce que comment je peux pour réduire mon impact environnemental? Tu sais, c'est vraiment des questions à se poser, pas tout seul comme fondateur, mais à se poser en équipe. Puis il y a des outils qui existent, je veux dire, le B-Lab, là, c'est un questionnaire qui est gratuit, des outils qui existent justement pour se benchmarker, dire « OK, moi, j'en suis où? Ça, c'est quoi les standards? » Tu sais, ça peut être au niveau de sa gouvernance même. Est-ce que, bon, si j'ai un CA, est-ce qu'il y a des gens sur le CA? Est-ce que mes employés sont représentés sur le CA? Ça peut être des choses aussi simples que ça. Puis il y a même l'entreprise progressiste.com, il y a un questionnaire qui s'appelle Radar, qui est gratuit, où les gens peuvent vraiment aller voir, fait par M. André Coupet, entre autres, où les gens peuvent aller voir, puis aller voir, bon, j'en suis où au niveau de la création de valeur versus mon consommateur, versus les employés, etc. Donc, il y a des outils qui existent pour se benchmarker un peu sur qu'est-ce qui est possible de faire.
On va d'ailleurs mettre les liens que tu as mentionnés dans les notes de l'épisode de Marie-Josée pour bien situer l'audience. J'aimerais revenir un peu. Tu as fondé l'organisation, tu avais 24 ans. Tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu es allé dans un voyage en Asie qui t'a ouvert les yeux sur un paquet de choses. Puis clairement, ça l'a impacté un petit peu par la suite ta vision du monde des affaires. Ceci étant dit, on n'a pas nécessairement la même vision au début de notre vingtaine qu'on l'a 10, 15 ans plus tard. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que il y a eu des changements à travers ton évolution, à travers la croissance de ton entreprise qui t'ont poussé à te dire, là maintenant, je veux être encore plus environnemental. Là maintenant, je veux être encore plus orienté au niveau de mes employés puis je veux leur partager des profits. On va en parler d'ailleurs de ça dans quelques minutes. Mais je serais curieux parce que clairement, tu avais une fondation forte au départ. Tu avais une vision du monde des affaires qui était différente, mais je serais curieux de savoir à quel point que ça a évolué au cours des années.
Ben, je pense que ma vision de l'entreprise puis l'entrepreneuriat n'a pas évolué, mais mon chemin personnel a évolué, en fait. T'sais, le départ, ça a toujours été impact positif, croissance organique, puis peut-être pas d'être dans l'hyper-croissance parce que je ne crois pas justement que ça peut être durable. Mais c'est plus mon cheminement, en fait. T'sais, c'est sûr qu'à 24 ans, pas d'enfant, hyper naïve, tu sais, bon... Si tu fais une erreur, ça te coûte, je sais pas, 10 000 piastres. Là, maintenant, aujourd'hui, chez Prana, si tu fais une erreur, ça coûte plusieurs millions de dollars. Donc, je pense que c'est peut-être la naïveté qui a peut-être été un petit peu effritée. Puis la conscience aussi du compromis. Avant, je voulais rien compromettre. T'sais, c'était coûte que coûte mes valeurs. Maintenant, je comprends que l'entreprise, c'est aussi une série de compromis. Puis à travers le temps, c'est certain, tu sais, au début, là, tu sais, on est en mode survie. Je veux dire, il faut mettre du pain sur la table, là. Puis à un moment donné, quand on est dans une période de croissance relativement stable, tu sais, on est en croissance, ça va bien. Puis avec, bon, tu sais, c'est sûr que j'ai eu 3 enfants à l'espace de 5 ans, j'ai eu 3 garçons. Je pense que moi, mon chum, on a fait comme un instant. Tu sais, si nous, on est épuisés, puis on est comme, on a beau avoir la meilleure mission, puis la plus belle mission au monde, si nous, le verre est vide, comment on peut redonner à notre entreprise, puis on a été un peu rendu là en 2017. C'est pour ça qu'on a pris une année sabbatique, parce qu'on savait là, qu'il fallait vraiment s'ouvrir l'esprit, revenir à notre esprit voyageur pour être capable de mettre à profit notre plein potentiel. Puis un peu de réaligner les choses. T'sais, je suis qui, moi, aujourd'hui? Ben, à ce moment-là, j'avais 37 ans versus quand j'avais 24 ans. Puis du coup, on pensait aussi à ce moment-là que la grande croissance de Prana allait venir des États-Unis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un CEO américain en place. C'est bon, on a fait plein de choses. On a mis une gouvernance, bref. On a amené un fonds d'investissement. Tu sais, on a mis une équipe de leadership super forte. On a engagé un CEO américain. Bref, on a mis des Américains sur notre conseil d'administration. Et on est parti. Puis, on s'est rendu compte, dans le fond, qu'on était le cœur de l'entreprise. Puis, quand le cœur s'en va, c'est pas facile. C'est pas facile pour l'équipe. Donc, on a eu un très, très gros learning par rapport à ça, dans le sens où, quand on est revenu, c'est comme si la culture avait tellement changé, il y avait tellement un climat de peur que les gens partaient. Donc, on a perdu, malheureusement, une personne sur deux. Puis, on s'en était pas rendu compte. Nous, on était à l'extérieur du pays, tout était filtré, un peu l'information qu'on avait. Puis, une chose que j'ai comprise, c'est que avant tout, tu sais, quand on recrute, avant tout, avant le skill set puis les compétences, c'est vraiment important d'engager des gens qui ont un fit de culture. Vraiment, vraiment important, parce que ça, la culture, ça vaut de l'or. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Puis pour avoir des équipes performantes, ça prend des gens qui ont ce désir-là de partager un peu la même culture de l'entreprise. Fait que ça a été un très, très gros learning. Puis comme tu disais tantôt, à un moment donné, moi et mon chum, on a voulu empower les gens. J'haïs ça, ce mot-là en français, empuissancer les gens ou donner du pouvoir aux gens.
Il n'existe pas en français, hein?
Mais c'est empuissancer, tu sais, c'est tellement bizarre. En tout cas, tu sais, des fois, les traductions sont un peu boiteuses. Puis on s'est dit à un moment donné, ben regarde, là, on est dans une croissance, ça va bien, Prana va bien, on peut se le permettre. Nous, Prana n'est plus moi et mon copain, on est une équipe. Comment qu'on peut redonner un peu plus à notre équipe? Puis comment on peut leur donner du pouvoir? Fait qu'un, on leur a donné le pouvoir de l'information. Fait qu'on s'est dit, nous, on va agir en transparence. Donc, transparence, ça veut dire, ben ouvrir les livres. Revenus moins dépenses. Tu sais, à tous les trimestres, on a un town hall puis un conseil de famille où vraiment, les gens savent exactement c'est quoi les dépenses de Prana, c'est quoi les revenus, vraiment 100% transparent. Donc ça, c'était une des façons, tu sais, comme ça, chacun sait comment il peut contribuer au succès de l'entreprise, du gars qui lave les machines jusqu'au VP. Mais au-delà de ça, tu sais, au-delà de l'information, on voulait donner du pouvoir financier aux gens. Fait que c'est de là qu'on a parti un programme d'actionnariat. Donc, les employés de Prana peuvent acheter des actions de l'entreprise à une valeur vraiment, vraiment très, très, comment dire, avantageuse. Ouais, avantageuse. Et on a aussi mis en place le partage de profits. Donc, ça a vraiment été à ces deux niveaux-là qu'on a voulu donner le pouvoir aux gens.
Wow. J'en ai vu beaucoup, hein? De... Non, mais c'est totalement fascinant ce que tu dis là. Donc, mais j'aimerais creuser un peu ici parce que clairement, tu le disais un petit peu plus tôt, là, on a beau le dire, mais il faut mettre des actions derrière ce qu'on fait. Je pense que clairement, c'est un exemple assez phénoménal ce que tu viens de mentionner, de faire un partage de profit, de donner la chance à certains employés d'aller acheter des actions. Puis j'aimerais revenir également, j'aimerais faire le parallèle avec le fait que tu as eu des gens qui ont dirigé l'organisation qui, ultimement, on est d'accord, ça n'a pas l'air de s'être très bien déroulé avec ce que tu nous as mentionné. Est-ce que ça a été relié à ça? Est-ce que tu t'es dit... Nous, parce que peut-être que c'est également pour ça que vous voulez peut-être que à terme, des employés reprennent la gouvernance de l'entreprise, des gens qui partagent vos valeurs pour pas que l'entreprise se retrouve entre les mains d'actionnaires externes qui, eux, ne partageraient pas les mêmes valeurs. Est-ce que ça a été une des raisons derrière ça?
Ben, en fait, ça a été fait avant, en fait, l'arrivée du CEO. Non, ça a été vraiment dans un esprit de partage, d'équité, de co-création, de coopération. Ça a été pas du tout, je pense, ça n'a pas été influencé par le CEO qui est arrivé. C'est sûr qu'on a eu un désir de recul puis de sentir qu'on n'était pas seul là-dedans. Souvent, les gens, les plans d'actionnariat, souvent, c'est quand tu veux prendre ta retraite ou quand tu veux carrément passer l'actionnariat à ton équipe ou à d'autres gens. Mais non, nous, c'était vraiment dans un désir de coopération et d'équité. Je veux dire, les gens, là, les gens mettent 40 heures, au-delà de 40 heures par semaine de leur vie dans la vision de moi puis mon chum, tu sais. Puis je me dis, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Puis je me dis, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je voudrais de mon employeur, tu sais? Au-delà de, bon, pas me faire micromanager, de me donner un sens de la responsabilité, de me donner une mission au jour le jour qui est plus grande. Tu sais, pour moi, je sais pas, pour moi, c'est comme le gros bon sens. Puis c'est ça qui rend une entreprise durable, tu sais, c'est que les gens viennent pas juste pour le paycheck, les gens viennent pour quelque chose qui est au-delà, mais en même temps, on est tellement une famille que on veut redonner. Tu sais, c'est comme la générosité nous revient de part et d'autre. Puis regarde, je dis ça, mais en toute transparence, c'est pas rose, là. Je veux dire, il y a pas des papillons qui volent chez Prana, là. On a nos enjeux.
On est d'accord.
C'est pas parce que on est généreux puis qu'on a ces valeurs-là qu'on n'a pas nos enjeux puis que les gens des fois sont pas insatisfaits par certaines choses. Je veux dire, on a un engagement très fort, mais des fois il y a du monde insatisfait, tu sais, comme partout dans la vie là. Je veux pas non plus que les gens pensent que c'est pink and rosy là, tu sais, puis que je vis dans un nuage là.
Par contre, parlons-en des points positifs qui sont venus de ça. Es-tu capable de partager avec l'audience un peu aujourd'hui, Marie-Josée, qu'est-ce que tu as été capable de voir de différent, peut-être de certains employés, depuis qu'il y a eu ce partage de profil-là? Parce que clairement, comme tu l'as dit, ça donne un sens différent à ton travail. Tu te sens quasiment propriétaire ou même littéralement propriétaire de l'entreprise à ce point-là.
Oui, c'est certain. Je veux dire, est-ce que j'ai vu une différence? Je pense que les gens chez Prana, je veux dire, c'est, au recrutement, sincèrement, on cherche des gens engagés. Je pense que c'est un geste vers les gens, mais je pense que peu importe, les gens sont engagés. C'est comme ça qu'on les recrute. Ce qui a fait une grosse, grosse différence chez Prana, c'est former des équipes. On s'est demandé comment, justement, pendant le moment COVID, pas la production, là, qui sont à peu près 50-60, les gens étaient en télétravail, puis on s'est dit comment qu'on peut engager le monde, tu sais? Puis on leur a demandé, on a fait littéralement un sondage, on a dit, pourquoi tu viens travailler chez Prana? Qu'est-ce qui te motive à tous les jours d'aller devant ton ordinateur puis de mettre du sien dans la vision de Prana? Puis ils ont dit l'équipe. Ils ont dit l'équipe en premier, puis après ça, ils ont dit la mission, la vision, les valeurs. Puis là, on s'est demandé, OK, comment qu'on peut vivre nos valeurs? Comment qu'on peut rapprocher le monde? Fait qu'on a formé des équipes sous différents thèmes, tu sais, comme vie vert ou agriculture ou, tu sais, peu importe, là, home sweet home, ça, c'est, tu sais, de faire en sorte que Prana, le bureau, puis la factory soit bien, puis qu'on construit une terrasse. Bref, puis dans le fond, on a pris des gens de tous les horizons. Tu sais, que ce soit le VP, le gars qui lave la machine, le monde à production, la personne aux ventes, les finances. On a fait des équipes comme ça, multidisciplinaires. puis eux-mêmes se sont votés un leader pour que quelqu'un puisse exercer son leadership. C'est quelqu'un qui, normalement, n'est pas directeur ou pas VP, puisse exercer son leadership au sein de son équipe, puis pour que les gens se rencontrent. Puis ça, je te dirais, ça a vraiment créé un mouvement à l'interne fort, où les gens sentent que au-delà de faire leur travail, ben, on prend soin de notre chez-nous, on prend soin de nos valeurs, puis on les vit au quotidien. T'sais, c'est pas juste du blabla qu'on veut vivre plus vert puis qu'on veut consommer mieux. On se donne des vrais objectifs en équipe. On se donne 3 objectifs par année, puis on le vit pour vrai, puis on partage après aux autres équipes. Puis il y en a qui n'ont jamais pu exercer leur leadership parce que bon, ils sont, je sais pas, le content manager, qui là exercent leur leadership, puis ça tourne comme ça. Fait que pour moi, c'est cet esprit-là que les gens puissent se sentir utiles et vivre vraiment en équipe au-delà de leur travail quotidien.
Là, c'est intéressant ce que tu dis. Puis, j'aimerais continuer un petit peu par rapport aux différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui sur les modèles d'affaires progressistes, sur la vision d'une entreprise. Bien entendu, il y a Marie-Josée, l'entrepreneur, mais maintenant, il y a également Marie-Josée, depuis quelques années, l'investisseur. Donc, on le dit, tu es Dragon à la fameuse émission de Radio-Canada depuis 2019 maintenant. À quel point ces valeurs-là, en tant qu'entrepreneur, se traduisent à 100% quand tu es dans le rôle d'un investisseur?
Ben pour moi, je veux dire, on en a parlé plus tôt, j'ai un grand désir de cohérence. Donc, c'est certain que je vais investir mon temps et mes ressources sous le parapluie de l'entreprise progressiste, de l'entreprise sociale, environnementale qui s'est donné ces objectifs-là. Pour moi, non, ça serait une incohérence totale. Je suis rendue là dans ma vie, j'ai ce luxe-là, heureusement, et je pense qu'il faut que ça fasse du sens. Puis c'est sûr que pour moi, ben c'est sûr que j'ai un faible avec l'alimentaire parce que c'est ce que je connais. Mais il y a aussi autre chose, j'ai beaucoup investi dans les enfants. Pour moi, les enfants, c'est hyper important, l'éducation des enfants. Je suis très, très investie dans l'école de mes enfants. C'est la prochaine génération et je veux voir que ces gens-là, qui vont être les adultes de demain, puissent vivre avec une terre qui sincèrement, qui va leur redonner puis les nourrir avec un grand N. Ouais.
Qui est durable.
Oui, ben sinon, je veux dire, regarde, c'est fou pareil parce qu'on pense à aller sur Mars. Puis tu sais, je veux dire, c'est tellement l'humain de coloniser. On était en Europe, on n'était pas contents, ça nous prenait plus de ressources. On est venu en Amérique du Nord, on n'est pas contents, ça nous prend plus de ressources. On s'en va sur la planète Mars. C'est comme, on peut-tu faire avec ce qu'on a? C'est comme, c'est fou, là, l'humain. On est vraiment fourrés, puis... Non, mais bref, pour moi, c'est vraiment important d'investir en cohérence. Je veux dire,
Puis, est-ce que tu le vois dans les gens que tu rencontres dans l'œil du dragon, dans les entreprises, est-ce que tu vois quand même une évolution vers ça? Est-ce que quand les gens arrivent maintenant, le discours a changé? Bien entendu, c'est la troisième saison, ça fait 3 ans que tu es là maintenant, donc tu l'as pas vu depuis, je pense que ça a commencé en 2012, mais tout de même, est-ce que tu sens une évolution dans le discours des jeunes entrepreneurs?
Énormément. Puis ça, je te dirais que ça me fait un baume, non seulement, mais ça me donne l'essence pour continuer parce que c'est sûr que, je vais le dire en toute transparence puis en toute humilité, j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur dans l'émission. Le producteur le sait, les gens qui sont proches de moi le savent. Je suis pas investisseur dans l'âme, tu comprends? C'est pas ça mon but dans la vie. C'est pas ça qui me fait thriver, là, on va se le dire.
Ouais.
Mais de voir les entrepreneurs, puis le courage qu'ils ont, puis de voir le discours, puis la rhétorique changer, puis de changer les vieilles façons, puis de dire, regarde, moi, là, je suis en affaires parce que je veux m'impliquer au niveau social, puis moi, je suis en affaires, puis je veux faire des manteaux qui ont moins d'impact sur la planète, je veux faire des skis locaux parce que ça n'existe pas, je veux... Tu sais, c'est juste comme, wow, ça me donne la nourriture au niveau de mon âme pour continuer, puis je suis comme... Alléluia, tu sais, le message, bien qu'il n'est pas unanime, parce que bon, il y a du monde plus vieux jeu, si je peux me permettre. Je m'excuse, là, sans jugement, mais bon, il y a du monde plus vieux jeu. C'est dur de changer les habitudes puis les croyances, là, les miennes incluses. Mais de voir le discours des entrepreneurs, qui me parle de gouvernance alternative, ça n'a pas passé à la télé l'année passée, mais il y a du monde qui me parlait d'une gouvernance alternative. J'étais comme, c'est ça, là. C'est ça les conversations qu'on a besoin d'avoir à Radio-Canada. C'est ça. Puis c'est ça qui me fait triper puis qui fait que je suis comme, je vais me mettre dans la position du sofa puis je vais m'habiller chic puis je vais me maquiller pour passer ce message-là. Non, mais c'est vrai parce que, je veux dire, moi, dans mon quotidien, je veux dire, je suis vraiment monsieur, madame tout le monde. Tu sais, j'ai pas besoin de ce limelight pour exister. Mais si je peux passer mon message, puis si ça peut résonner dans le cœur puis dans l'âme des gens, ça, je vais avoir fait mon travail.
Ben, c'est intéressant. C'est même excessivement fascinant ce que tu dis, Marie-Josée. Puis, avant de te poser des petites questions personnelles que je pose à tous les gens que j'interviewe sur Hypercroissant, j'aimerais savoir quel est le futur de Prana, mais quel est également le futur de Marie-Josée Richer, parce que je vois que de plus en plus, on dirait que c'est une autre entreprise quasiment que tu es en train de bâtir. Tu es très souvent dans des conférences, tu as des opinions tranchées, tu es excessivement articulé. Donc, c'est plaisant de pouvoir t'écouter parler, d'inspirer notre entrepreneur. Quel est le futur de ton organisation et de ton personal brand, on pourrait dire ça ainsi?
C'est une bonne question. J'ai toujours détesté ça, cette question-là. J'haïs ça. Tu sais, quand au début, tu te demandes, genre, qu'est-ce que tu vas être dans 5 ans? Je suis comme, je sais-tu, je sais même pas, je vais être où la semaine prochaine? Tu sais, comme, tu sais, quand tu es dans ta start-up, puis je veux dire, tu as de la misère à mettre du pain sur la planche, là. Tu es comme, un instant, là. Mais bref, je vais répondre quand même. Je pense. Pour moi, c'est vraiment continuer à avoir un impact positif, continuer d'avoir des projets qui sont excitants, continuer d'innover pour créer de la valeur pour nos consommateurs, pour créer de la valeur pour les agriculteurs. Tu sais, l'agriculture locale, ça me fait triper. L'agriculture régénératrice, ça me fait triper. Tu sais, des projets qui me font vraiment vibrer puis que je sens qu'ils peuvent ajouter de la valeur pour nos consommateurs finalement. Puis c'est ça, peut-être un petit peu plus aller en amont, tu sais, vers les agriculteurs, c'est pas évident. C'est ce que j'ai essayé aussi dans l'année sabbatique. Je vois tous les enjeux internationaux. Puis c'est pour ça qu'on s'est penché un peu, par exemple, faire des graines de soie à l'échelle locale puis d'investir dans l'approvisionnement responsable à l'échelle locale. Fait que faire des projets qui sont générateurs, qui sont fédérateurs pour l'entreprise en amont avec, c'est ça, tous les fournisseurs agriculteurs puis en aval aussi pour tous les consommateurs. Puis continuer à créer ce lien d'appartenance-là à Prana avec l'équipe et tout ça. Tu sais, continuer à pousser ce modèle-là de l'entreprise progressiste puis de prouver qu'on peut faire des affaires autrement. Ça, c'est vraiment cher pour moi. Mais tu sais, au niveau du particulier, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. C'est sûr que mon but, c'est de toucher le cœur des gens. De quelconque façon, je vais le faire, peu importe. Qu'est-ce que ça sera le moyen. Continuer aussi d'être une étudiante. Tu sais, d'apprendre des autres, puis de m'inspirer des autres, de rester dans cet esprit-là, ce cœur d'enfant-là, d'apprendre. Tu sais, que ce soit moi-même, l'agriculture chez nous, mon jardin, etc., pour continuer à inspirer le monde. Au niveau personnel, je suis en questionnement. C'est ça la vraie réalité. Je me demande moi-même, c'est quoi le next level? Quelle graine je veux planter aujourd'hui à 41 ans? Que je pourrais récolter à 80 ans. Puis tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'au niveau personnel, ben j'ai parti une petite communauté chez moi, vieillir avec les gens que j'aime, m'investir dans la musique, dans les choses qui me font triper, tu sais, je veux dire.
Ben oui.
On a une vie à vivre, là. Comme moi, quand je vais prendre ma dernière respiration, oui, inspiration, où je me dis, ouais, je vais avoir touché tous ces gens-là, je vais avoir inspiré ou pas, ou je vais avoir été justement avec des opinions tranchantes. Ou je me dis, qu'est-ce que je veux qu'il me reste, t'sais? Ça m'habite beaucoup, ce dernier instant que je vais vivre sur cette planète-ci.
C'est dans tes réflexions du moment. Intéressant. Mm. Puis,
fait que c'est pas clair, finalement.
Mais au moins, d'accepter qu'on est en période de réflexion, d'accepter qu'on est en période de questionnement, c'est souvent la première étape. Des fois, on est tellement sûr de tout et on est plus prêt à confronter un petit peu nos idées que c'est souvent ça qui est excessivement dangereux. Quand on a une perte d'ouverture d'esprit, quand on a une perte de réflexion, ben là, c'est là que ça peut être dangereux autant au niveau personnel que pour notre organisation. Donc, c'est un premier pas vers la bonne direction d'avoir une ouverture d'esprit, une réflexion par rapport à ces différentes questions-là. Puis, tu as mentionné le terme « continuer à s'éduquer ». Et moi, Marie-Josée, je suis un grand amateur de livres. Je lis beaucoup de livres d'affaires. Et je serais curieux de t'entendre là-dessus. Quel est l'impact de la lecture chez toi? À quel point c'est important dans ta carrière d'entrepreneur? Est-ce que ça t'a aidé à t'éduquer et peut-être à poser des meilleures décisions pour ton entreprise?
Oui, c'est certain, mais tu sais, la lecture, c'est vraiment pour moi un moment de, tu sais, comme phase out, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est important de lire puis m'éduquer sur l'entrepreneuriat et tout ça, sur les différentes façons, mais... Je vais le dire bien sincèrement, j'ai eu 3 enfants en 5 ans, puis la lecture, c'est un excellent somnifère. Après 5 pages, C'est vraiment parfait pour m'endormir. Bref, là, mes enfants sont un petit peu plus vieux. Fait que là, j'ai peut-être un petit peu plus l'espace pour lire. Mais dernièrement, j'ai lu Yoga de Emmanuel Carrère, qui a une écriture, ma foi, extraordinaire. Parce que je pense qu'on est un meilleur entrepreneur quand on a une pratique personnelle forte. Tu sais, je pense que une pratique spirituelle, je pense qu'on peut... Tu sais, parce qu'ils disent, hein, Frédéric Laloux le dit, l'entreprise ne peut pas dépasser le niveau de conscience de son CEO. Puis 100%. Pour moi, c'est important d'élever mon niveau de conscience puis ma pratique spirituelle pour justement plus redonner. Fait que bref, Yoga de Emmanuel Carrère, très fort. Et aussi Vers une entreprise progressiste de André Coupet, qui est un guide, j'en parlais tantôt, qui est un guide incroyable pour petites et grandes entreprises, vraiment là, un guide pratique, tu sais, pour vraiment se poser les questions dont on parle. Tu sais, je veux dire, André Coupet, c'est mon mentor. Des fois, je le paraphrase parce qu'il dit tellement bien les choses. Et moi, en tout cas. Fait que ces deux livres-là, puis tu sais, il y en a plein d'autres, mais si je peux en dire deux, ça serait ces deux-là.
Intéressant. Podcast, en écoutes-tu un peu?
J'en écoute beaucoup parce que, bon, j'habite dans le Nord puis je vais à Montréal pour le travail. Fait que c'est sûr. J'aime beaucoup Freakonomics Radio. Mmh. J'aime beaucoup de Optimize. Tu sais, moi, quelqu'un qui me prend un livre, là, puis tu sais, comme qui me résume ça en 20 minutes, là, c'est parfait ouais. pour moi. The Future of Food, Eat for the Planet, Tim Ferriss Show, Rich and Roll Podcast. Il y en a plein comme ça. Tout aussi, tu sais, Eat for the Planet, les choses... Qui relie un peu la bouffe. C'est quoi le futur de la bouffe? Comment on va manger? Ça m'intéresse, mais il n'y en a pas assez à mon goût. C'est poche, hein? Puis des fois, des histoires, tu sais, comme This American Life, là, tu sais, des histoires un peu, là, justement, comment le granola a été fait, tu sais, des choses comme ça, ça m'intéresse. Mais oui, podcast, c'est tellement pratique.
Intéressant. Puis, je terminerai ma dernière petite question, Marie-Josée. À quoi ressemblent tes routines avant, pendant et après le travail? Si, bien entendu, tu as des routines, parce qu'il y en a qui n'en ont pas.
Ben écoute, j'essaye. Je suis pas la plus disciplinée dans ce monde-ci, mais j'essaye de me lever tôt et de faire, bon, mon yoga, évidemment, de faire une petite pratique, quelque chose, tu sais, d'exercice. Je me sens mieux, en tout cas, quand je suis dans mon yoga, puis une méditation, puis ensuite, c'est lunch des enfants. C'est comme... Bing badang, là. Trois enfants qui se réveillent, fait que c'est les lunchs, tatatata. Pendant le travail, j'essaye le matin d'être vraiment focus, tu sais, de faire tous les trucs que j'ai à faire, de pas être sur les réseaux sociaux, de vraiment fermer cette patente-là qui est vraiment un disturbance, là. Tu sais, c'est vraiment la perte de temps. J'essaye de vraiment focusser. Puis après ça, j'essaye le midi, bon, d'aller prendre une marche pour vraiment m'aérer l'esprit. Puis après ça, peut-être d'avoir les meetings un peu plus en après-midi. C'est quelque chose qui me demande un petit peu moins de jus de cerveau. Puis après le travail, ben pour moi, c'est switch à off, puis c'est enfant, puis je veux offrir la présence. Puis c'est ça, je trouve, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des femmes qui écoutent, mais ce n'est pas toujours facile. C'est comme un dilemme quand tu es maman ou tu sais, puis que tu veux être hyper performante au travail, puis tu veux être hyper performante comme maman. C'est comme, si je dis pas, je pense pas que j'ai trouvé l'équilibre ultime. C'est un équilibre que j'essaie de voir tous les jours, mais. Au moins, quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Puis quand je suis au travail, je suis au travail. Puis c'est ça. Mais la routine est faite aussi pour être... si c'est trop routinier, je finis par péter un plomb puis ça me prend une année sabbatique. fait que là, il faut que je fasse attention avec ça. Tu sais, la routine est faite pour être jazzée. Fait qu'il faut pas...
Elle est faite pour être challengée, ben oui. Intéressant. Mais Marie-Josée, ça a été... totalement fascinant cette conversation-là avec toi aujourd'hui. Ça me fait ouvrir les yeux. Je suis certain que ça va ouvrir les yeux à d'autres personnes qui nous écoutent aujourd'hui également parce qu'effectivement, en 2021, si ta quête avec ton entreprise est uniquement orientée autour de la profitabilité, ben ça a une date de péremption, tout ça. J'ai l'impression que c'est moins sexy au niveau de la clientèle, c'est moins sexy au niveau des fournisseurs et également, ce n'est plus la seule chose qu'on doit se soucier. Je pense que tu l'as très bien synthétisé, très bien communiqué à l'audience aujourd'hui. Donc, je t'en remercie. Et si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi, sur Prana, c'est où les endroits les plus faciles pour te retrouver?
Ben, le média que j'utilise, c'est Instagram. Sur Prana, ben, on a un fabuleux site web. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est à peu près ça. Puis bon, c'est sûr qu'il y a les dragons, etc. Mais moi, j'ai hâte d'avoir plus de cheveux gris. Puis dans 20 ans, 30 ans, de se reparler puis de dire est-ce qu'on était fou à ce moment-là ou on était visionnaire, tu sais, ou fait que j'ai hâte à ce moment-là où je vais dire je vous l'avais dit.
Parfait. Ben, regarde, tout est enregistré. Fait qu'on va pouvoir reprendre ces conversations-là dans le futur. Donc, tout va être là. Marie-Josée, merci beaucoup. Ça a été, encore une fois, je le répète, fascinant comme conversation. Eh bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'en ai parlé récemment sur LinkedIn, mais je suis très heureux de recevoir autant de femmes sur le podcast récemment. Chacune d'entre elles ont une vision du monde des affaires assez distincte de ce qu'on voit habituellement, et ça devient difficile de rester indifférent face à tout ça. Merci d'ailleurs à Marie-Josée d'avoir une vision autant progressive du monde des affaires. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de superbes idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.